Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt.
Bonjour à tous, bienvenue au 83e épisode du Temps d'arrêt. Très heureux de recevoir Simon Servant de la presse canadienne et du TSLH Sports. Simon, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien, merci. Dans cet épisode, on revient sur le repêchage 2024 qui a pris fin il y a quelques jours. Plus précisément sur les choix que le Canadien a fait lors de cette QV. Donc, on va y aller en détail sur quelques-uns de ces choix, d'autres qui sont un petit peu plus. On a un petit peu moins de connaissances, un petit peu moins de visionnement de ces espoirs-là. Donc, on va essayer quand même de vous fournir l'analyse la plus complète de ces choix-là qui ont marqué quand même le repêchage 2024 du Canadien. Simon qui a eu l'opportunité puis de couvrir la journée du repêchage avec l'équipe du TSLH Espoir, justement dans la journée d'aujourd'hui, le 2 juillet, Mathieu sortait les chiffres. Donc, beaucoup, beaucoup de gens ont écouté le TSLH Espoir en live, le repêchage en live au TSLH Espoir. Donc, c'est des très, très beaux chiffres. Je félicite toute l'équipe qui a travaillé dur pour présenter quand même un produit de grande qualité. Si tu veux, Simon, avant de parler des choix du Canadien, on va parler quand même de l'événement qui s'est tenu à la sphère de Las Vegas. C'était une première. J'ai hâte d'entendre tes commentaires là-dessus. De mon côté, j'ai trouvé que c'était des effets visuels absolument uniques, incomparables. C'était spectaculaire. J'ai trouvé ça vraiment de toute beauté, que ce soit lorsqu'on présentait un espoir, lorsqu'on rajoutait certains vidéos, certains effets visuels. Ce fut vraiment, de mon côté, réussi. C'est dommage qu'on avait prévu à la base y aller juste une fois, là.
Ouais, ben c'est ça, exact. Il y a eu des. Ben moi aussi, j'ai trouvé que c'était magnifique comme présentation. À toutes les fois, le repêcheur, par exemple, je trouve qu'il y a certains temps morts
Des longueurs.
Qui pourraient peut-être juste être un petit peu plus d'action ou un petit peu moins de temps entre le fait de donner le chandail et ainsi de suite. Mais pour ce qui est du visuel, pour ce qui est de l'ambiance, puis de l'endroit en tant que tel. C'était vraiment bien. Puis c'est ça, c'est un peu dommage que les directeurs généraux, les gouverneurs ont voté pour décentraliser tout ça, puis mettre ça en ligne, un peu comme la NFL. Parce que là, je sens qu'il y a des regrets. Là. J'ai traduit un texte de mon collègue Josh Clipperton dimanche, ou samedi, dimanche, si je me souviens bien. Puis il disait que les directeurs généraux, ils commençaient déjà à être nostalgiques un peu. Fait que peut-être qu'il va y avoir un retour là, au présentiel.
On a toujours la possibilité de retourner à la sphère qui appartient quand même aux propriétaires des Rangers de New York, qui pourraient faire un bon petit prix à la Ligue nationale pour ramener tout ce beau monde-là dans son building. Mais c'est ça fut vraiment une grande réussite.
Oui.
On va prendre un petit peu le contexte qui a mené au premier choix du Canadien, qui était le cinquième au total. Évidemment, le premier choix, il n'y a pas eu de surprise. Du côté des Sharks, ce fut McLean Celebrini. Au rang numéro 2, les partisans des Canadiens ont commencé à stresser un petit peu. Finalement, les Blackhawks ont jeté leur dévolu sur le défenseur Artem Lefchunov. C'est au rang numéro 3 qu'on va s'arrêter, où il y a eu, c'était quand même, on ne s'attendait pas à ce que ce soit un choix pivot pour la future sélection du Canadien. On entendait certaines choses, principalement d'un défenseur. Plusieurs jours avant le repêchage, on parlait de Siliaïev. La journée du repêchage, il y avait beaucoup de bruit autour de Ziv Byam. On a finalement jeté notre dévolu sur Beckett Seneca. Donc, à quel point tu as été surpris de voir Seneca que oui, on s'attendait à ce qu'il sorte tôt dans le top 10, très, très possiblement, mais de le voir avant Lidstrom, avant Demidov. Est-ce que vous avez été resté surpris du côté du TSLH?
Ben oui, écoute,
que le jeune homme.
Oui, ben exactement, quasiment autant, parce que si jamais vous étiez là sur le live ou si vous allez revérifier le live qui est sur YouTube, quand il annonce la sélection, vous me regarderez la face parce que j'ai les yeux qui...
Qu'est-ce qui s'est passé là?
parce que, tu sais, Seneca, nous, on... Je pense qu'on a aimé depuis le début de la saison Seneca. Moi, même l'année passée, je le trouvais très bon aussi. Je l'avais même classé dans ma liste préliminaire. Je pense qu'il était 21e. C'est un jeune qui a beaucoup de talent, puis qui va probablement avoir une belle carrière dans la Ligue nationale. Sauf que là, le problème, c'est que là, tu mets Seneca devant Lindstrom et Demidov. Puis ça, je suis pas convaincu, là. Fait que si
Exactement.
après Columbus puis le Canadien, ben là, tu sais, ils ont un choix entre un des deux. Donc, c'était des choix faciles, tant qu'à moi, d'un coup, la sélection de Seneca venait d'arriver. Ils vont pas commencer à arriver avec du Bouillum puis du Silaïev, tout ça. Ramasse ce qui est là, puis c'est
Et
exactement ce qu'ils ont fait.
le dépisteur en chef, Martin Madden Jr., a expliqué un petit peu sa sélection en disant qu'il avait choisi Seneca pour le joueur qu'il pourrait devenir et non pour le joueur qu'il est actuellement. Donc, écoute, je pense qu'on est tous
Un peu
d'accord que,
cliché.
ouais, c'est ça, la
Oh.
logique est peut-être un petit peu discutable, surtout compte tenu des joueurs qui ont suivi, mais ce fut sa vision pour le repêchage. Le temps nous dira s'il avait raison ou il avait tort. Au quatrième rang, mais comme tu l'as dit, il y avait quand même une petite incertitude là, à propos de l'état de santé de Lidstrom. On en a parlé au podcast il y a quelques semaines. Mais ce fut quand même, le tout a été confirmé. Son état de santé, probablement fort acceptable, a été confirmé avec la sélection de Lidstrom par les Blue Jackets, ce qui laissait donc le champ libre pour le Canadien. Et tous les partisans de l'équipe espéraient qu'on jette notre dévolu vers Ivan Demidov. Et de manière quand même assez grandiose, Céline Dion est venue présenter le cinquième choix au total. Et ce fut, au grand bonheur de tous, la sélection, comme elle a dit, d'Ivan Demidov. Donc,
Exact.
avant d'en parler un petit peu, le topo sur le joueur, là, finalement, il est plus grand, un petit peu plus lourd que ce qu'on pensait. Il est près de 6 pieds 1 et 195 livres, un petit peu moins. Il a réussi 60 points en 30 parties dans la MHL, 28 points en 17 en série. On sait qu'il a un talent individuel extraordinaire. Tu l'avais troisième sur ta liste. J'aimerais que tu nous parles, premièrement, des qualités, des principales qualités qu'il va amener avec lui en Amérique du Nord et qu'on devrait voir dans ses premiers flashs avec un chandail du Canadien.
Ouais, ben Ivan Demidov, c'est ce que je disais, moi, c'est un joueur électrisant. Tu sais, il prend la rondelle, puis il met tout le monde sur les talons. Il a d'excellentes mains. Évidemment, il a une capacité à aller marquer, à transporter la rondelle, déjouer un gars, aller au filet. Une touche de marqueur. Il a une très bonne vision du jeu. Il a d'excellentes façons de ramener la rondelle à des coéquipiers. Il est capable de les impliquer. C'est pas juste un gars d'attaque, c'est un gars aussi qui est impliqué dans sa zone, il est capable d'être un peu physique dans. Tu sais, c'est pas, encore une fois, c'est pas de la physicalité de muscle puis de démolir des adversaires, mais c'est vraiment de barrer des bâtons, de venir chercher des rondelles le long des bandes, c'est des choses comme ça. Donc, c'est un joueur relativement complet qui possède pas mal toutes les qualités d'un joueur offensif élite avec une touche défensive. Peut-être améliorer un petit peu son patin, mais encore une fois, là, tu sais, si on veut couper les cheveux en quatre, là, c'est ça. C'est juste un petit peu améliorer un petit peu de patin, peut-être un petit peu plus de physicalité, un petit peu en zone offensive, mais très, très mince. Moi, j'avais souligné le fait des fois qu'il coupait, il sortait du coin, puis il coupait un peu dans le centre de la tête basse. C'est pas quelque chose qui est dramatique, mais ça peut arriver que ça peut être dangereux dans la Ligue nationale, mais c'est encore une fois très mineur, là. C'est des choses qui ne viendront pas, selon moi, avoir un impact sur son potentiel maximal, son impact justement avec le Canadien, à moins vraiment qu'il se fasse connecter, là, puis qu'il prenne des commotions, mais sinon,
C'est
je
pas une
m'attends à du
inquiétude.
90 points, moi, dans la Ligue nationale pour Demidov,
Certains
facilement.
minimisaient un petit peu sur ce qu'il a fait cette année quant au fait qu'il jouait dans la Ligue junior en Russie. Est-ce que tu connais le contexte de pourquoi on ne l'a pas vu plus longtemps avec le SKA de Saint-Pétersbourg? On sait que c'est une des meilleures équipes en KHL. Est-ce qu'il y avait certaines choses dans son jeu qui faisaient en sorte qu'il n'était pas prêt pour le hockey professionnel en Russie? Qu'est-ce qui pouvait, selon toi, expliquer
Je pense que le ska, c'est juste pas dans leur mentalité vraiment d'avoir des jeunes comme ça. On l'a vu avec Mishkov aussi, tu sais, qui niaisait vraiment dans la KHL. Il a fallu qu'il l'envoie dans la VHL. Puis ensuite de ça, il a été transféré à Sochi. La même chose avec Demidov. C'est que là, tu sais, on. Puis je sais pas si c'est une technique du côté de la Russie d'essayer de décourager les jeunes de traverser de l'autre côté. Tu sais, je sais pas, ça arrive souvent. On l'a vu avec Danila Yurov aussi par le passé, il y a deux
Ouais,
ans,
c'est
où il
vrai.
jouait 34 secondes, il jouait 48 secondes. Je pense que ça contribue aussi au fait qu'il y a certains directeurs généraux qui sont peut-être un petit peu moins friands des joueurs russes, puis d'aller piger dans ce côté-là, parce que justement, ils n'ont pas le contrôle sur le développement, puis là-bas, ils développent pas super bien. Fait que, je pense que Demidov, dans la KHL, c'était pas nécessairement des qualités le problème, je pense que c'était plus la
C'est le
mentalité
contexte,
là-bas.
ouais.
Exactement. Parce que dans la MHL, tu sais, oui, c'est une ligue junior, mais sauf que quand tu es un joueur dominant, puis tu es un joueur d'élite, tu es supposé les manger toutes les jeunes là-bas dans le junior. C'est ce que
C'est ce
Demidov
qu'il a
il a fait.
fait. Oui,
Exact.
absolument. On sait que par après, en entendant le directeur général Kent Hughes, c'était le joueur qu'il visait. Là, comme il l'a dit lui-même, là, il n'avait même pas pris la peine d'écrire McLean Celebrini sur sa liste. C'était vraiment le premier choix sur sa liste. Et il y a même quelques informations comme quoi il avait essayé de s'avancer. Finalement, Demidov avait glissé jusqu'à lui. Il a fait certaines tentatives aussi. Pour essayer de dissuader les autres directeurs généraux dans les dernières semaines de croire que le Canadien était intéressé à lui. Finalement, je pense que beaucoup d'équipes étaient au courant que c'était que le Canadien le voyait dans sa soupe. Je ne sais pas de ton côté si tu as vu le nombre de visionnements sur ta page YouTube de tes observations sur Demidov augmenter. La même chose pour Simon Saint-Lô, mais son nom a été partout, partout, partout après sa sélection. C'était la principale recherche, je pense, sur plusieurs moteurs de recherche, le nom d'Ivan Demidov. Je pense que beaucoup de gens sont allés chercher des visionnements justement de ce qu'ils pouvaient faire. Donc, ce que tu viens de nous décrire, les gens viennent de le voir récemment, mais ça fait longtemps qu'il fait ça. Il a fait ça toute l'année en MHL. J'aimerais que tu nous dises, parce qu'il lui reste un an de contrat en Russie, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que tu t'attends pour la saison qui s'en vient? Donc, comme mentionné, il est encore sous contrat avec le SKA pour une dernière année. Est-ce qu'on a des chances qu'il passe la saison avec le grand club ou vont-ils le renvoyer justement comme ils savent que Demidov veut faire le saut dans la Ligue nationale? Ils n'ont pas de temps à perdre avec lui, ils vont le renvoyer dans la MHL ou le prêter comme ils ont fait avec Mishkov. Ou encore, est-ce qu'on pourrait voir la même chose qui s'est passée avec Matvey Mishkov, est-ce que le Canadien pourrait y aller d'une offre pour acheter les droits de Demidov pour la prochaine saison? Qu'est-ce que tu pourrais t'attendre de ce côté-là?
Ben, c'est ça, c'est que là, il y a une possibilité qui s'offre aux Canadiens de peut-être justement vérifier ça. Peut-être qu'il ne va pas jouer, je pense, tu sais, je ne serais pas convaincu qu'il joue dans la KHL, mais une possibilité qu'il joue dans la VHL
PHL, ouais.
et la ligue en dessous. MHL, c'est si le plan c'est d'aller dans la. De le faire jouer dans la MHL, je pense que le Canadien est mieux de sortir le portefeuille puis aussi bien de l'amener tout de suite
Absolument.
dans la Ligue nationale. Est-ce que Demidov, je pense qu'il est prêt à être dominant dans la Ligue nationale? Peut-être pas cette année, mais je pense qu'il pourrait bien se débrouiller dans la Ligue nationale. Il pourrait avoir une belle saison d'environ une quarantaine de points, 40-45 points là, avec le talent qu'il a en ce moment,
En ce
puis
moment,
même
ouais.
dans la Ligue nationale, même s'il fait le saut de la KHL à la Ligue, ben en fait, de la MHL à la Ligue nationale, je pense que Demidov serait capable d'avoir au moins un 0,5 point par match là, à sa saison recrue. Si on décide de le laisser encore une autre année en Russie, puis il s'en vient, continue à prendre de la maturité, il va peut-être prendre du poids un petit peu, il arrive au mois de mars, où ben là, le SKA est quand même une bonne équipe, fait que t'sais,
Risque de
possibilité que ce soit
prolonger
un
ça
petit
un peu,
peu
ouais.
plus loin, peut-être avril, mettons fin de la saison pour le Canadien. Viens faire un petit tour, puis à ce moment-là, il va être prêt pour l'année prochaine. Donc je pense que ça va être un peu ça. Je pense qu'il va aller jouer dans la VHL, le meilleur des mondes dans la KHL. Sinon, ben,
On
c'est
vise
ça.
2025-2026.
Exact.
Le Canadien possédait un deuxième choix de première ronde. Et dans les heures qui ont suivi le repêchage, on a décidé de s'avancer, de passer du rang 26 au rang 21. On a transigé avec les Kings de Los Angeles. Finalement, l'équipe a choisi le centre canadien du style de Chicago, Michael Hage, 6 pieds 1, 190 livres. On en avait parlé ensemble lors de notre dernier épisode du profil de joueur. Donc, très rapidement, là, pour rappeler un petit peu aux auditeurs, là, c'est un joueur de centre qui a des qualités individuelles très élevées, mais qu'on ne voit peut-être pas assez souvent dans la circulation lourde.
Ben en fait, c'est ça, c'est qu'il va. Il est près du filet, ça c'est correct, sauf que moi, je l'ai trouvé un peu mou, là, des fois, par moment. Bon, en fait, c'est peut-être pas mou, mais plus un peu soft dans le sens qu'il ne va pas trop dans les mêlées. Un peu de problème parfois de physique, le long des bandes, des choses comme ça. Mais côté talent, encore une fois, si mettons, tu voulais suivre le talent de Demidov avec un choix de première ronde qui est évidemment moins talentueux que Demidov, mais qui a encore beaucoup de choses à amener, beaucoup d'habiletés à amener, Michael Hage, c'est un choix qui se comprend très bien. Je pense que c'est un gars qui peut vraiment. En se développant bien, puis en ayant, il va prendre de la maturité aussi physique, puis il va comprendre aussi, déjà qu'il joue en Amérique du Nord, c'est quand même bien, mais là, tranquillement, il va aller jouer dans la Ligue américaine, il va venir jouer dans la Ligue nationale. Moi, je pense que sur un middle six, mettons, deuxième ou troisième trio, je pense qu'il pourrait bien solidifier. Il y a des gens qui disaient qu'il était un peu individuel. À Chicago, puis c'est un peu normal, par exemple, parce que c'était pas
C'est
une
ça.
grande équipe.
Ce sera à voir l'année prochaine, alors qu'il évoluera
Ouais.
pour ta formation, l'Université de Michigan. Donc, tu vas clairement l'avoir à l'œil. C'est un espoir du
Ouais.
Canadien. Il joue pour ton équipe qui vont avoir une grosse saison qui les attend. Là, on risque de voir un petit peu plus si certains défauts comme ça ressortent encore. Le contexte de sa sélection était quand même très intéressant. Kent Hughes a mentionné que Hage était très, très haut sur sa liste, qu'il avait pas mal plus haut que le 21. Donc, clairement que, en fait, fort possiblement, au rang 26, il n'aurait pas été disponible si le Canadien ne s'était pas avancé, là, compte tenu surtout que quelques équipes ont pris des joueurs de centre par la suite. Mais c'est les autres joueurs aussi qui ont passé proche d'être disponibles au rang du Canadien qui étaient intéressantes et qu'on se pose la question, c'est si ils avaient été libres, est-ce qu'on aurait jeté notre dévolu sur eux? On pense à Sacha Boisvert, qui était une association logique. Trevor Connolly était sélectionné deux rangs avant, là, mais peut-être qu'il y avait moins
Ouais,
d'associations.
oui, je pense pas.
Juste avant, par contre, Cole Eiserman, qui est sorti avec les Islanders. Si
Ouais.
la situation avait été inverse, Michael Hage n'avait pas été libre, ça aurait été intéressant de voir si on aurait jeté notre dévolu sur Eiserman, si on ne le saura jamais. Reste qu'on a fait quand même quelques belles découvertes de voir que les deux parents de Michael Hage étaient originaires de Montréal. On le sait malheureusement, son père est décédé. Ça a été une grosse adversité pour lui cette saison. Il s'est présenté avec un français fort surprenant. Très, très bon niveau de français. Il a mentionné que le Canadien, c'était son équipe de jeunesse,
Ouais.
que c'est une équipe que son père aurait été très, très fier de le voir avec un chandail du Canadien. Donc, je ne sais pas pour toi, Simon, et je pense que c'est quand même certains points, certains éléments qui comptent dans la balance de voir qu'un jeune, ça représente beaucoup. Non, ce n'est pas un Québécois, mais c'est un jeune qui. Pour qui mettre le chandail du Canadien, ça représente probablement plus que pour plusieurs Québécois parce que il va vouloir rendre son père fier et c'est quelque chose de spécial quand même là, avec cette sélection-là.
Oui, ben absolument. Puis ça, des fois, c'est des choses qu'on néglige un peu par moment parce que, tu sais, on regarde le joueur en tant que tel, le talent du joueur, puis des fois, on oublie un peu le background, le côté un peu mental de tout ça. Puis Michael Hage, tu sais, oui, c'est ça, il a vécu de l'adversité cette année, on en avait parlé, son père est décédé. Tu sais, des fois, c'est pas évident, surtout en début de saison. Son début de saison, il était un peu ordinaire. Puis, tu sais, c'était pas évident peut-être pour lui de vraiment se lancer dans ce mood-là de hockey, d'entraînement,
Ouais.
tout ça. Puis là, à un moment donné, peut-être qu'il est peut-être
Il a mieux
arrivé quelque
géré
chose.
certaines.
Ouais, c'est ça, il y a peut-être eu des gens qui l'ont conseillé, puis ainsi de suite. Puis là, il a embarqué, puis je pense que le fait qu'il veulent mettre le chandail du Canadien, qui veut, Il veut vraiment, comme tu dis, peut-être rendre hommage à son père, puis vraiment s'assurer de laisser sa marque avec l'équipe. Ben ça, c'est des choses qui sont quand même non négligeables parce que tu veux en avoir des gars comme ça. Surtout qu'on parle toujours du Canadien, il y a beaucoup de pression, puis blablabla. Mais là, lui, il est prêt à l'accepter, il est prêt d'être là, il est prêt pour mettre le chandail. Puis, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait l'aider même. Plus tard,
Dans
même
son, ouais, dans
quand
son
il va
développement.
arriver près du Canadien, peut-être que là, ça va lui permettre de vraiment passer à l'autre étape.
Ces deux sélections ont permis de placer le Canadien dans la gamme des équipes qui ont vraiment très, très bien réussi lors cette première ronde du repêchage.
Absolument.
Pour la journée du samedi, pour les rondes 2 à 7, le Canadien a commencé un petit peu en retard. On n'avait pas de choix de deuxième ronde suite à cette transaction qui nous a permis de nous avancer. En troisième ronde, le Canadien avait le choix numéro 70 et on a fait un choix très sentimental parce que plusieurs étaient contents de voir Katos Koivu, le fils de Saku, fut la sélection du Canadien. Il évoluait l'an passé avec l'équipe junior du TPS en Liga en Finlande. C'est un centre de 6 pieds 1, 170 livres. Il a récolté 31 points en 28. Mis à part le fait qu'il a quand même un bon tir du poignet, qu'il a quelques qualités quand même assez évidentes qui lui ont permis d'être sélectionné en troisième ronde. Là, on ne l'a pas seulement choisi parce qu'il s'appelait Koivu. Je sais que ce n'était pas ton joueur favori dans ce repêchage. Dis-nous pourquoi toi, ça n'aurait pas été nécessairement ton choix, mais fais-nous un petit portrait de Atos Koivu. Là.
Ben, tu sais, moi, Atos Koivu, je l'ai regardé un peu partout, puis j'ai trouvé qu'il était. Tu sais, oui, il avait des bonnes habiletés quand même. Je trouvais qu'il avait un bon lancer, puis, ou relativement bon quand même. Mais moi, je l'ai trouvé un peu mou. J'ai trouvé qu'il ne marquait pas nécessairement des autres. Tu sais, pour une sélection de troisième tour, des fois, tu veux t'accrocher à certains éléments. Là, on dirait qu'on s'accroche vraiment juste au talent qui n'est pas si élevé que ça. En tout cas, à mon avis. Puis, tu sais, j'imagine que ils ont trouvé des qualités que moi, je n'avais pas vues. Là. Tu sais, je ne l'ai pas trouvé si créatif que ça avec la rondelle. Je n'ai pas trouvé qu'il était un super patineur non plus. Je pense qu'il patinait bien. Tu sais, de ce que j'ai vu, moi, il a l'air bon dans pas mal d'aspects, mais pas
Mais
très bon.
ouais, excellent dans
Pas
rien.
super physique, ouais, mais ça, il n'est pas super physique. Moi, j'ai eu de la misère à l'apprécier cette année. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de hype sur lui, puis je comprenais pas pourquoi. Puis c'est correct, là, tu sais, chacun, on a notre vision des choses. Puis là, ensuite de ça, tu sais, il arrive au U18, y a absolument aucun impact. Tu sais, je sais pas. Moi, j'ai eu beaucoup de misère avec lui. Tu sais, je pense que il coche pas mal toutes les cases dans une catégorie moyenne, mais je trouve qu'en troisième ronde, il y aurait peut-être eu moyen d'aller chercher des joueurs qui, du côté du
Des valeurs un
Canadien,
peu plus sûres, là.
ouais, ou des joueurs qu'on ressent quelque chose. T'sais, Brody Seamer qui sort tout de suite après,
Ouais, exact.
t'sais, moi, ça me fait mal parce que Brody Seamer, c'est un gars d'énergie, c'est un gars qui fonce au filet, qui est tannant, qui est relativement robuste. Henry Muse qui sort quelques rangs plus tard, que oui, c'est un défenseur soft, mais qui a un bon mouvement avec la rondelle, qui a une bonne capacité à créer de l'attaque
Soutient
en zone
l'attaque, ouais.
offensive. Donc, c'est ça, tu sais, c'est ça. Visiblement, moi, j'ai des choses qui me manquaient pour embarquer du côté de Atos Koivu, puis c'est ça. Puis il était pas super bon non plus aux Cinq Nations. Donc, bref, c'est ça. Fait que c'était pas ma
Surtout
sélection
que,
favorite.
considérant que le Canadien avait deux choix de troisième ronde, on aurait peut-être pu y aller d'une valeur un petit peu plus sûre avec le premier, surtout compte tenu des joueurs que tu viens de nommer. Il faut quand même pousser la réflexion à se demander si Maxime Massé avait glissé jusqu'au Canadien, si on l'aurait choisi. Finalement, il est sorti quand même très tôt en troisième ronde, là, quelques rangs avant la sélection du
Ben
Canadien,
écoute,
pardon, mais ce fut quand même
pas
surprenant de le
juste.
voir glisser jusque-là.
Puis il n'y a pas juste Massé, tu sais. John Mustard, c'en est un
Mustard aussi, ouais.
que j'aimais bien aussi, même Ethan Prochazian, qu'on avait parlé, qui lui aussi est un petit peu plus physique. Donc, tu sais, je sais pas comment ça s'était déroulé, mais oui, tu sais, ça. Mettons
On
que
a
la
possiblement barré plusieurs
sélection.
noms avant de prendre
C'est
Koivu.
ça, c'est possible. Ou
Pour
Nathan
cette
Villeneuve, même.
pour cette deuxième sélection de la troisième ronde, plusieurs ont clairement sorti leur téléphone pour aller googler son nom ou ont tenté de chercher son nom dans le guide, mais il ne s'y trouvait pas.
Ouais.
Au grand désarroi de nombreux, on parle ici de Logan Sawyer, qui fut le choix du Canadien au rang 78, un attaquant de 6 pieds 1, 173 livres, qui évoluait avec les Bandits de Brooks dans la BCHL. Brooks a évolué pour deux ligues différentes l'année dernière. Il a eu des très, très bonnes statistiques lorsque l'équipe évoluait pour les rangs juniors albertains. L'équipe a fait la transition vers la BCHL où il a quand même terminé 19 points en 20 matchs. Pour ceux qui le connaissent un petit peu moins, c'est-à-dire pas mal tout le monde, je vous suggérerais d'aller regarder le profil que notre collègue Pascal Lapointe a rédigé sur le tout sur le hockey. Pascal a fait ses devoirs après la sélection. Il ne le connaissait pas beaucoup, donc il est allé visionner beaucoup, beaucoup de ses segments et il présente le joueur dans un article sur tout sur le hockey. Donc, je vous le conseille. En gros, pour résumer un petit peu ce qui s'est dit, là, c'est pas le patineur le plus physique, parfois un manque d'implication dans son jeu. C'est un joueur quand même très créatif, habile, avec la rondelle, qui tente souvent de déculotter ses adversaires. Ça mène malheureusement souvent à des revirements aussi. Par contre, il domine en cachant très bien ses intentions, possède un bon tir des poignets, peut aussi être très intense pour gagner ses batailles. Est-ce que c'est un joueur que tu avais des visionnements dessus ou trop peu pour te prononcer?
Malheureusement, moi, je ne le connaissais même pas. Je ne connaissais même pas son identité. Là. C'est pour te montrer à quel point que... Puis nous, on n'est pas des recruteurs, donc déjà, vous voyez un exemple de pourquoi on ne l'est pas, parce que moi, c'est un gars que je connaissais pas du tout. Quand ils ont annoncé sa sélection, tu sais, on n'a pas le choix de comme...
C'est gratter la tête pas mal.
Ouais, ben en fait, on fait juste laisser... On se dit, ben on va faire confiance aux recruteurs
ouais,
du Canadien. Parce que... Mais tu sais, moi, je sais que, par exemple, il y a des gars que j'ai vus qui sont sortis en arrière de lui. Carson Wetch, entre autres, qui est un vrai tannant, lui aussi. Un autre gars robuste qui fonce au filet, qui donne de bonnes mises en échec. Même... Marquez, qui lui a des talents très élevés, talents de playmaking, bon shot.
C'est intéressant ce que tu dis, Simon, parce que c'est un profil. Hein. Du côté
ouais,
de Sawyer, on recherche un joueur qui va probablement jouer dans. Qu'on espère qu'il va jouer, tu l'as dit, dans le milieu, dans le middle six. Mais parfois, ça peut être pertinent d'aller chercher une valeur sûre que tu dis, ben lui, il va jouer sur mon quatrième trio. C'est pas mal certain, ou voir sur une troisième ligne qui amène quelque chose de plus rugueux, ça peut valoir la peine dans des sélections un petit peu plus hâtives comme au deuxième, troisième round. Tu parles de Wetch, c'est pas mal ça.
Oui, ben c'est ça. Ben Wetch, nous autres, on l'a vu beaucoup. Il a été là dans tous les événements cette année aussi pour le Canada. Je pense que si vous avez vu le U18, vous avez probablement vu un Wetch aussi qui était utilisé dans des bonnes missions, qui était dérangeant. Puis, tu sais, Marquez, moi, c'est ça, je connais pas le Sawyer, mais moi, ce que je sais, c'est que Marquez, il a beaucoup de talent aussi. Fait tu sais, si jamais c'est au fil d'arrivée, mettons, ou dans 7-8 ans, on regarde les deux joueurs, tu sais, ça va être intéressant de comparer parce que, tu sais, Marquez, c'est pas un sure shot pour la Ligue
nationale,
Marquez, mais. Le talent est très élevé quand même pour lui.
Du côté de Sawyer, il a eu d'excellentes séries éliminatoires avec Brooks. Il jouera pour Providence College dans la NCAA, donc un bon programme de hockey, seulement en 2025-2026. Un petit peu décevant de le voir que ce ne sera pas l'année prochaine. Peu d'informations par rapport à ce qui se passe pour l'année prochaine. Risque de rester avec Brooks dans la BCHL. Si c'est là que l'équipe reste.
Oui, il pourrait passer peut-être dans la USHL.
USHL,
ou, ouais. Je sais pas
son nom
n'est
pas affilié à aucune équipe pour l'instant. Ça restera à voir. Peut-être que le Canadien mettrait un petit peu de pression. Ça semble quand même un choix assez risqué avec ce deuxième choix de troisième ronde. On passe à la sélection de quatrième ronde. Au 102e rang, le Canadien a sélectionné le défenseur gaucher Owen Protz. 6 pieds 1, 213 livres, qui évoluait à Sudbury avant d'être échangé à Brentford la saison dernière. C'est un défenseur défensif. Tu l'as observé. qu'est-ce que tu peux nous dire sur Proch qu'on n'a pas entendu? On a entendu le fait que ouais, c'est un gars qui peut s'imposer physiquement, mais autre que ça, qu'est-ce que tu peux nous dire de lui?
C'est pas mal ça que je
Pas
veux
mal
vous
ça.
dire parce que c'est pas nécessairement un joueur que moi j'ai beaucoup. Je l'ai
Aimé.
regardé dans. Ouais, c'est ça. Je l'ai regardé dans les deux équipes parce que ça donne qu'il est quand même tombé dans des équipes qui avaient d'autres espoirs, donc à Sudbury puis à
Sudbury, ouais.
Brantford. Dans les deux cas, moi j'ai trouvé que c'était un gars qui était quand même physique, qui brassait un petit peu. Mais je n'ai pas trouvé qu'il y avait une bonne vision avec la rondelle. Je n'ai pas trouvé qu'il était tant impliqué offensivement. Puis je n'ai pas nécessairement trouvé non plus qu'il y avait un très bon coup de patin. En fait, peut-être un patin standard, là. Puis, tu sais, à ce gabarit-là, tu sais, à 6-1, 2-14, si tu patines comme le vent, au moins tu te dis, OK, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Mais là, tu sais, si tu es un patineur moyen, en tout cas, moi, dans ce que j'ai vu, là, c'est là que peut-être que ça peut être dangereux, ça peut être difficile dans ta zone. Puis si tu viens pas t'impliquer en attaque, ben là, tu sers plus ou moins à rien. Donc, tu es un stay at home, comme on appelle. Ben, si c'est le cas, ben, tant mieux. Moi, j'ai pas vu de touche de two-way en lui, en ce défenseur-là. Puis encore une fois, c'est juste mon opinion. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont eu des meilleurs visionnements que moi. Puis c'est ça, c'est bien correct. Juste que je trouve que, encore une fois, j'ai.
Il aurait pu avoir mieux.
Ben, tu sais, peut-être. Je sais pas s'il aurait pu vraiment avoir mieux, mais tu sais, pour moi, mettons qu'il l'a pas tant aimé dans les visionnements que j'ai eus. Qui ne m'a pas donné le goût d'aller le revoir. En fait, je regardais les équipes pour qui il a joué, mais sauf que là, à un moment donné, j'étais comme, je vais juste regarder les espoirs que je veux regarder, là.
Ouais.
Fait qu'à Sudbury, tu sais, il y avait Villeneuve, il y avait Walton. Du côté de Brentford, on a regardé Van Acker. Fait, tu sais, j'ai regardé les gars qui étaient là, puis j'ai dit, ben, lui, il est comme passager dans mes visionnements. Puis quand j'ai noté des choses, c'était pas nécessairement super bon. Fait que
À voir
on
si
espère
son.
que c'est
Ouais.
ça. On espère que les Canadiens vont
À voir
avoir
si
fait
son
un
jeu avec
bon
la rondelle
travail.
pourra se développer un petit peu au fil de ces saisons dans la OHL. Pour les cinq derniers choix, je vais les énumérer un petit peu plus rapidement, puis tu nous donneras un commentaire d'ensemble, comme ce sont des choix un petit peu plus nébuleux pour certains, là.
Ouais.
En cinquième ronde, le Canadien avait deux choix. Au rang numéro 130, ils ont sélectionné le gros attaquant Tyler Thorpe des Giants de Vancouver. Donc, un gros bonhomme là, de 19 ans, donc un overager. 6 pieds 4, 212 livres. Quand même récolté 44 points en 51 cette saison. À cause de sa taille, ça pourrait être un pari intéressant. Au 134e rang, le Canadien a sélectionné le gardien letton Mikus Vekvanags du HS Riga en Ligue lettonne. Donc, c'est un grand gardien, 6 pieds 3, quand même très frêle, 160 livres. Notre collègue Mathieu Paradis aussi a effectué un profil du gardien. Il l'a observé dans les derniers jours, a présenté un texte pour nous présenter ses différents attributs. Mais c'est un gardien qui s'est illustré au championnat des moins de 18 ans. Là, je me souvenais avoir vu la Lettonie jouer et je trouvais leur gardien assez bon. Mais il s'agissait de Vekvanags. Il anticipe et attrape bien la rondelle. Il est athlétique, mais parfois trop facilement débalancé. En sixième ronde, au 160e rang, le Canadien a repêché le centre américain Ben Merrill, qui provenait de San Sebastian dans le réseau des prep schools américains. 37 points en 25 matchs dans une ligue assez de moindre calibre. A joué quand même deux matchs avec Michael Hage avec le Steel cette saison. C'est un grand bonhomme, là, 6 pieds 4, 195 livres. Il jouera dans la BCHL l'an prochain avec Penticton avant de rejoindre l'Université de Harvard en 2025-2026. En septième ronde, on est allé de deux joueurs de 19 ans au 210e rang, mais le Russe Makar Kanin, attaquant qui évoluait en VHL la saison passée avec le Dynamo de Saint-Pétersbourg, 27 points en 38 matchs. Et finalement, au 224e rang, Rasmus Bergqvist, défenseur suédois défensif, 6 pieds 2, jouait en J20 national. Donc, quelques joueurs de 19 ans, trois joueurs de 19 ans, un gardien, un Américain qui jouait sur les prep schools. Donc, clairement pas l'élite qui s'y retrouvait, mais je pense qu'avec Thorpe, avec Managz, quand même des paris qui pourraient être intéressants. Est-ce que, un, tu étais déçu de prendre, qu'on voit, qu'on sélectionne un autre gardien, encore une fois? Puis, qu'est-ce que tu as pensé de ces sélections, même si tu ne connaissais pas vraiment personnellement ces joueurs-là?
Ouais, ben Tyler Thorpe, j'ai eu l'occasion de le regarder avec Vancouver. Il jouait je regardais deux autres espoirs aussi de ce
OK.
côté-là, Colton Roberts puis Adam Tittleback. Puis lui, dans le fond, Thorpe, je m'étais pas noté rien sur lui. En fait, j'ai pas mis dans aucune liste de ma part parce que c'était pas un gars, quand je suis arrivé à faire mon Excel avec tous mes joueurs, c'était pas un gars que j'avais noté l'année passée. Donc, des fois, j'embarque pas ces gars-là dans ma liste. Puis oui, je l'ai regardé un petit peu. Il semblait avoir quand même, évidemment, avec son gabarit, il a quand même une bonne touche physique. Semble être un. Ben, en fait, il avait l'air d'un bon patineur. Il avait l'air quand même d'un gars
Pour
habile.
sa grandeur.
Mais oui, c'est ça. Donc, tu sais, des fois, ces projets-là à 6 et 4, 2,15, 2,20, ça peut valoir la peine. Mettons, à ce rang-là, en cinquième ronde, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui se vaut du côté
Qui
du
va à la boîte.
Canadien, là. Je pense que c'est correct d'avoir une sélection comme ça. Puis le gardien, évidemment, moi, le Canadien, je comprends pas pourquoi il s'entête toujours à sélectionner des gardiens à tous les repêchages. Tu sais, à un moment donné, si tu veux avoir une. Si tu veux avoir un sure shot devant le filet, ben prends-en un qui est dans les hauts, là, en première ronde, en deuxième ronde. Il y en
C'est
a
ce qu'on a
des
fait
fois.
avec Fowler l'année passée aussi, donc je voyais pas vraiment l'utilité de la chose, mais bon.
Ben, Fowler, là, dans tous les gardiens qu'ils ont, Fowler, c'est celui dont on voit le meilleur potentiel. C'est un gardien que la plupart d'entre nous, on avait en deuxième ronde. Il y en a même qui l'avaient en première ronde. Je pense que Matt, il l'avait en première ronde. Tu sais, c'est un gars que on se dit, il a le prototype parfait pour être un gardien numéro 1 dans la Ligue nationale. Fait que les autres, après, qui suivent, là, les 14 gardiens qui sont sélectionnés après, tu sais, à un moment donné, combien de gardiens ça va prendre pour que le Canadien soit satisfait à tous les repêchages? Tu sais, c'est pas normal, là.
Surtout qu'on regarde les joueurs qui sont sortis par après, il y en a quand même plusieurs d'intéressants, là. Owen Allard, Sebastian Siony, Noah
Ben, t'sais.
Powell, Luke Missa, et évidemment Justin Poirier qui est sorti très très tard. Les gens l'attendaient, il a glissé. Oui, le Canadien avait beaucoup de petits joueurs, mais en fin de cinquième ronde comme ça aurait pu être très intéressant d'aller chercher un joueur d'ici qui a vraiment un produit là, dans la LGMQ.
Ouais, puis tu sais, au pire, c'est ça. Tu vas avoir un peu d'énergie, un gars comme Clark Caswell aussi. Tu sais, juste parce que on dirait que c'est comme un mandat, là. Ils sont obligés d'aller chercher un gardien à chaque année, comme ils sont obligés d'aller chercher un Russ Overager à toutes
Ouais.
les années. Tu sais,
Et un défenseur européen à la Petteri Nurmi.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je sais pas, tu sais, moi, tant qu'à moi, tu sais, je dis pas que c'est des choix gaspillés, mais tu sais, si tu veux pas les faire, ces sélections-là, ben échange-les, puis
On peut
sélectionne l'année
s'avancer,
prochaine,
ouais,
tu sais,
l'année
ou
d'après, s'avancer de
avance-toi,
quelques
ou.
rangs, ouais, absolument.
Je sais pas, je dis pas qu'ils veulent pas les faire, les sélections, mais je sais pas à quel point, tu sais, c'est-tu si risqué de prendre un choix de, justement, là, tu sais, un choix de sixième, un cinquième ronde sur Justin Poirier au lieu de prendre un
Le gardien,
gardien letton.
absolument.
Puis, encore une fois, moi, je l'ai même pas vu, là, j'ai pas porté attention à ce gars-là, fait que, puis peut-être que je l'ai vu, puis j'ai pas noté rien, mais, tu sais, je sais pas à quel point. Il faut toujours avoir un gardien du côté du Canadien. Tu sais, c'est rendu un running gag, là, puis même avec
Je pense que
l'overager russe, tu sais, c'est la même chose.
l'angle des gardiens peut être intéressant, puis c'est Mathieu qui a apporté le point dans son texte. On va chercher un Européen où on garde leurs droits un petit peu plus longtemps, ils se développent de manière un petit peu différente en Europe, et on sait que les gardiens se développent un petit peu plus tard. C'est des sélections à la Emmett Crotteau que là, on se dit ben, ça ne vaut peut-être pas la peine, mais dans le contexte où on en avait déjà pas mal, en plus avec Yevgeny Volovkin l'année passée, ça en fait beaucoup. La nécessité n'était peut-être pas là, là.
Surtout que Volovkin, apparemment, qui est aussi bon que Fowler, en plus,
Ouais.
côté russe. Moi, je l'ai vu aussi cette année pendant les séries. Puis, Il était bon, là. Moi, je pense que Fowler, il est pas mal supérieur, mais ça, c'est juste de mon œil. Mais là, c'est parce que là, je me souviens, moi, Frédéric Descaux, c'était un Danois, ou un, t'sais, lui, il était supposé, lui aussi, il était supposé se développer de façon incroyable, puis finalement, ils l'ont tassé après 2 ans. Je comprends le principe d'aller chercher un Européen pour garder le contrôle, puis ça, c'est parfait, mais c'est juste que là, t'en as 8 gardiens déjà, là. T'en as repêché genre 6 dans les 3 dernières années. À un moment donné, puis là, t'en as dans ta formation. T'as Primo qui est là aussi, qui va être appelé peut-être à jouer. Puis encore une fois, je ne dis pas que Primo, c'est un gardien numéro 1, mais là, c'est que Primo, si c'est ton deuxième gardien, puis Montembeault, c'est ton premier, jusqu'à temps que la fenêtre s'ouvre un petit peu. Ben là, parce que si tu veux gagner la Coupe Stanley, si t'es le Canadien, puis que ta fenêtre s'ouvre dans 3, 2, 3, 4 ans, moi, je pense pas qu'ils peuvent gagner la Coupe Stanley avec Montembeault puis Primo devant le filet. Donc, va falloir que tu ailles chercher un vétéran, peut-être un gardien qui va arriver sur le marché des joueurs autonomes, qui va venir te demander un 7, 8, 9 millions. Puis là, à ce moment-là, c'est avec lui que tu vas partir pour ta fenêtre pendant 4 ou 5 ans, 6 ans, 8 ans. Enfin, je ne sais pas, tu sais, encore une fois, où tu insères ces gardiens-là. Tu sais, si, mettons, là, je lance n'importe quoi, mais tu sais, mettons, Connor Hellebuck est disponible, tu le prends, puis ensuite de ça, tu as Fowler comme backup dans 3-4 ans, mettons. Puis là, on part du côté du Canadien avec ça pendant 6-7 ans, avec le noyau. Ben, Golovkin, il pourra pas rentrer.
Ça
Le
bloque beaucoup
laiton.
de
Et
potentiel.
exactement, il n'y a personne qui va pouvoir rentrer là-dedans. Là. Fait que c'est pour ça que je ne sais pas à quel point c'est si important d'avoir ces gardiens-là.
Quelques paris risqués dans cette journée du samedi qui peuvent valoir la peine. Quelques déceptions aussi par rapport à certains choix. Donc, ça, je pense qu'en somme, c'est difficile de ne pas être satisfait quand on pense à la journée du vendredi et du samedi. Reste que les rondes 2 à 7, ça sera, c'est toujours, encore une fois, sur le coup, on peut se prononcer. On verra dans quelques années, mais
C'est
sur
ça.
le coup, je pense qu'on a pu être un petit peu déçu de certaines sélections. Mais comme tu as dit, dans le cas de quelques choix, là, comme Sawyer, justement, on va laisser la chance aux coureurs et je pense que l'équipe de recrutement du Canadien a définitivement fait son travail. Donc voilà pour les 10 choix du Canadien cette année. En somme, ça met quand même le Canadien dans un tiers intéressant parmi les équipes qui ont repêché. Probablement pas au sommet, mais pas trop loin. Puis voyons si on va conclure l'épisode en regardant justement les équipes qui ont le mieux fait. Je vais énumérer quelques équipes. Simon, puis tu me diras peut-être tes coups de cœur, là. Premièrement, du côté des Sharks, on est sorti de la première ronde avec Celebrini et Dickinson. On a pris en deuxième ronde Igor Chernyshov et Léo Saline-Wallenius. Les Flames, on a jeté notre dévolu sur Parrott, Gridin en première ronde. Par la suite, des Bachab, Bataglia, Henry Muse, Misa, Chicago, 3 choix de première ronde, Nevchinov, Boisvert, Van Acker. On a rajouté Mustard en troisième ronde. Minnesota a bien fait aussi en prenant Byum, Richie et Aaron Kiviharju qui s'est rendu au 122e rang, qui était clairement le meilleur joueur à ce rang-là. Donc, pour toi, quelles sont les équipes qui ont le mieux fait? Ça peut être une autre équipe aussi que celle que j'ai énumérée, qui ont gagné ce repêchage 2024 selon toi.
Oui, ben moi, quand je suis allé dans le podcast de la relève, j'ai énuméré les Sharks. Je trouve que les Sharks sont allés chercher des. Dans le fond, les joueurs, à part Celebrini, évidemment, c'est le premier choix, là, mais les joueurs qui leur tombaient sur les jambes, les
C'était les meilleurs.
Dickinson, les Chernyshov, Saline Valenius, même Carson Webb, dont on a parlé tantôt, puis même je rentrerais Colton Roberts aussi à 131, je dirais, ils les ont ramassés. Fait qu'ils se
Tous
sont
des gars qui
dit,
auraient pu
eux
sortir
autres,
plus tôt aussi.
ouais, mettons, t'aurais pu, tu sais, peut-être pas, tu sais, dans le cas de Dickinson, je pense qu'il aurait pu
Quelques rangs.
sortir un peu plus tôt. Chernyshov, assurément, dans la vingtaine, tant qu'à moi. Saline Valenius aurait pu sortir au moins une dizaine de rangs plus tôt. Même Carson Wetch aussi.
Aussi, ouais.
Fait que, tu sais, c'est tous des gars, eux autres, qui ont regardé leur, je sais pas si leur liste était vraiment, tous ces gars-là étaient dans les listes assez haut. Peut-être moins pour Colton Roberts, mais pour les autres, peut-être que c'était des gars qui étaient un petit peu plus haut. Puis ben finalement, tout s'est bien déroulé pour eux. Fait, moi, j'ai bien aimé leur repêchage tant qu'à moi. C'est sûr, tu pars avec Celebrini, donc ça paraît bien. Ensuite de ça, moi, j'avais parlé des Flames aussi. Parce que les Flames, je
Absolument.
trouve qu'ils ont vraiment, ils ont vraiment visé le talent pur.
Ils
Ils ont
sont allés larges là,
visé
jusqu'aux sélections
clôture.
Missa, là.
Exact. On a décidé d'aller du côté du talent naturel, puis on a décidé de viser les clôtures. Puis pour une équipe qui a eu un creux de vague cette année, ben en fait, depuis l'échange de Matthew Tkachuk, tu sais, Zane Perret, c'est beaucoup de talent, du gros talent, beaucoup de plafond offensif. Matvei Grydin, même chose. Bacha, même chose. Muse, comme on parlait tantôt, pour un
Ouais.
défenseur qui sort en troisième ronde, qui a une qualité offensive.
Missa en
Missa,
cinquième
beaucoup de
ronde.
talent, ben exactement, fin de cinquième ronde. Puis Battaglia, c'est un bon joueur. Moi, je l'aime beaucoup, Battaglia. C'est un joueur un petit peu plus. Il a quand même une touche de marqueur, capable d'alimenter ses coéquipiers, capable de protéger la rondelle. Donc, un petit peu plus style rugueux, un petit peu plus style. Je ne veux pas dire mean parce qu'il ne frappe pas si fort que ça, mais plus d'accent. Puis Zarubin, je sais que Matt, il l'aimait beaucoup. Marty du podcast La Relève aussi, c'était deux des admirateurs de Zarubin. Donc les Flames sont allés le chercher en troisième ronde. Donc je pense qu'ils ont fait un très bon coup dans l'ensemble pour cette équipe-là. C'est vraiment les deux équipes, moi, qui m'ont tapé dans l'œil pendant que je regardais le repêchage. Là, tout de suite, ces gars-là, ces équipes-là, j'étais comme, hey, ça va bien, des bons choix d'un côté à l'autre. Puis. Fait qu'on va, et comme tu dis, puis on le dit tout le temps, on va voir dans 5-7 ans qu'est-ce qui va arriver avec ces choix-là. Mais c'est à
En date
première vue,
d'aujourd'hui, ouais, ça serait
c'est
ça.
ça, c'est intéressant. Puis Kivi Arrio qui sort 122, tu sais, si vous avez vu la vidéo qui
Absolument.
dit à Bill Guérin que, il vient de faire le
Le
vol
vol.
du repêchage,
Ouais.
ben, tu sais, c'est possible là,
C'est
parce
une belle
que
confiance, là, ouais,
Kivi
absolument. Pour ce rang-là, c'est une très bonne
Arrio, ben.
sélection, là.
Tu sais, Kivi Arrio, côté transition, côté relance, côté offensif, il a assurément les atouts pour faire quelque chose.
Définitivement, ouais.
Après, s'il améliore son jeu défensif, s'il améliore un peu son patin en général, ben, tu sais, pas nécessairement qu'il patine pas bien, mais juste, tu sais, pour vraiment s'impliquer encore plus, je pense que, tu sais, là, après, c'est du travail, puis c'est normal qu'il ait glissé, puis en plus de ça, qu'il s'était blessé, donc on ne l'a pas vu beaucoup. Au U18, il n'a pas eu un bon tournoi.
Ça pourrait, comme il le dit, être
C'est
le
ça.
vol du repêchage, absolument.
Exact.
C'est ce qui met fin, Simon, à la saison 2000, 2024, 2025, 2023, pardon, 2024, des espoirs. Donc, ça s'est terminé avec cette analyse des choix du Canadien. Déjà, une petite porte entrouverte pour la prochaine saison 2024-2025. Beaucoup d'espoirs très intéressants. Là, on a qu'à penser à James Higgins, Porter Martone, Roger McQueen, Michael Missa aussi. Donc, ta saison risque de commencer avec le Ilinka Gretzky, peut-être dans ces eaux-là, fin août. Ça va donner une petite pause quand même de scouting.
Oui.
Bien mérité à toute l'équipe du TSLH Espoir. Terminant une petite ouverture pour la saison 2000, la saison prochaine qui s'en vient, que tu t'attends un petit peu en gros, là.
Ben moi, je pense que c'est un. Encore une fois, on dit ça toutes les années, on dirait, mais je pense que c'est un meilleur repêchage 2025 que 2024. Je pense qu'il y a un peu plus de talent qui sont capables de faire de la différence. Je pense qu'il y a plus de joueurs d'impact, plus de joueurs d'élite. La profondeur, je trouve qu'elle n'est pas mauvaise pour l'instant dans les joueurs que j'ai,
Ouais,
moi, du
ça va.
côté des. Je pense que j'ai 85 noms environ
Quand même, déjà.
pour 2024-2025. 2024-2025. Donc, tu sais, j'aime ce que je vois pour l'instant. Quand même, quelques gros gabarits aussi après Higgins, mais en fait, des gros gabarits, des gars qui sont quand même grands pour leur âge, qui vont continuer à grandir, à grossir.
Hensler.
Hensler, c'est ça, qui est déjà le défenseur qui fait saliver un peu tout le monde. Donc, oui, je pense qu'il y a beaucoup de talent qui s'en vient. Ça va être intéressant de voir ça. Et puis,
On les
un
garde à
repêchage
l'œil.
un peu
Ouais.
plus. Peut-être le top 15, un petit peu plus wild, en fait, de ligue. Il y a un peu il y a le
Pêle mêle
programme.
un peu, ouais.
Il y a la Ligue d'Ontario, la Ligue de l'Ouest, il y a la Ligue de hockey junior majeur, ben en fait, junior maritime, la Suède. Donc, bref, c'est oui,
Ce sera
j'ai hâte.
intéressant, définitivement. Donc voilà, on espère que ça vous a éclairé pour les choix du Canadien. Certains seront définitivement des vedettes éventuellement avec le Canadien, d'autres qui pourraient potentiellement surprendre et d'autres qui tomberont dans l'oubli plus tôt que tard. C'est la beauté du repêchage. Je te remercie beaucoup, Simon, de t'être prêté au jeu. Très, très, très pertinent. Toujours très. Je peux toujours compter sur toi pour une bonne analyse. J'apprécie les auditeurs du temps d'arrêt apprécient. Puis encore une fois, un gros merci, une très, très belle saison de scouting que tu viens de nous donner là.
Ouais, merci. Faites de mon mieux. Donc, on se
C'est ça,
dira à l'année
complètement.
prochaine pour ça.
Alors, merci à tous d'avoir été présents. Puis on se dit à un prochain épisode du temps d'arrêt.